Faire.
Suivez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, premier service de transfert d'argent et de paiement mobile. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Il est 10h10 à Paris, bienvenue si vous nous rejoignez, c'est la Libre Antenne, nous sommes vendredi et vous connaissez le principe, vous pourrez dans une demi-heure commenter l'actualité de votre choix, revenir sur tous les sujets qui vous ont marqué ces jours-ci dans l'actualité française, africaine, internationale. Je vous cache pas que vous êtes très nombreux encore ce matin à souhaiter revenir sur l'échec du coup d'État au Burkina Faso, des réactions sur le pèlerinage à la Mecque après le drame d'hier qui a fait plus de 700 morts lors d'une bousculade, le référendum constitutionnel au Congo-Brazzaville, suscite là aussi de nombreux témoignages et réflexions au standard et également sur la page Facebook de l'émission. Bref, vous le voyez, les sujets ne manquent pas. Vous nous appelez, où que vous soyez à travers le monde, vous êtes les bienvenus. RFI vous donnera la parole, 33 9 693 693 70, 09 693 693 70, si vous nous appelez de France. Mais d'abord, comme tous les matins, votre rendez-vous avec la rédaction d'RFI, toutes vos questions pour mieux comprendre, mieux décrypter les sujets que nous traitons dans nos différents journaux. Taïrou nous appelle du centre du Mali. Il est à Sévaré exactement. Bonjour Taïrou.
Bonjour Wanda, bonjour aux auditeurs de la radio mondiale et bienvenue à Sévaré en ce deuxième jour de la fête du mouton. Fête à laquelle je vous invite Wanda.
Ben, c'est gentil, merci à vous. Vous avez des questions Taïrou sur les élections législatives de dimanche dernier en Grèce.
Effectivement, le 20 septembre dernier, la Grèce a organisé des élections législatives qui ont été remportées par le parti de gauche radical Syriza du Premier ministre Alexis Tsipras.
Mmh.
Alors, les néo-nazis d'Aube Dorée ont décroché la troisième place avec 6,28% des suffrages, score qui est pratiquement identique à celui qu'ils ont obtenu en janvier 2015.
Oui.
On a entendu très peu les analystes parler d'Aube Dorée comme cela fut le cas en janvier 2015. Alors ma question est de savoir pourquoi le parti Aube Dorée n'est plus vu comme une menace.
Ah, vous avez l'impression qu'il n'est plus perçu comme une menace. En tout cas, c'est vrai, vous avez bien suivi les résultats de ces élections anticipées, puisque le parti xénophobe demeure la troisième force politique du pays. Bonjour Anastasia Becchio.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous rentrez d'Athènes, vous étiez l'envoyé spécial des RFI en Grèce. Aube Dorée remporte 7% des voix. Le parti a même fait un peu mieux qu'en janvier dernier, non ?
Oui, c'est vrai que l'Aube Dorée reste la troisième force politique du pays. Le parti a même fait un peu mieux qu'en janvier avec près de 7% des voix, ce qui lui permet d'avoir 18 députés au Parlement. Il en avait 17 précédemment, donc un de plus. Si on regarde le résultat en nombre de voix, en nombre d'électeurs, Aube Dorée a recueilli 9000 voix de moins qu'en janvier. Bon, il faut quand même dire que tous les autres partis ont perdu des électeurs puisque le taux d'abstention était très élevé, de l'ordre de 43%.
Ce qui est un record en Grèce.
Oui, effectivement, ça n'a pas mobilisé les foules cette élection. Si on transpose à 2012, Aube Dorée avait fait un score similaire avec toujours près de 7%, mais avait obtenu à l'époque près de 46 000 voix de plus qu'aux dernières élections. Donc, grosso modo, on peut considérer en analysant les résultats de ces 3-4 dernières années que le parti peut compter sur le soutien de 380 à 400 000 Grecs. Mais les études sociologiques montrent que l'Aube Dorée a perdu de son influence dans les quartiers ouvriers et populaires des grandes villes. C'est notamment vrai dans la capitale, dans les quartiers défavorisés d'Athènes et du Pirée, où l'on a constaté une érosion de l'électorat aux deux derniers scrutins législatifs.
Ouais, alors justement, comment peut-on expliquer cette érosion de l'électorat ?
Alors, le parti connaît des déboires judiciaires, avec une série de procès qui touchent ses membres, ce qui ne contribue pas à améliorer son image, et ce qui a sans doute détourné une partie de son électorat. En septembre 2013, un militant d'Aube Dorée avait poignardé à mort un militant antifasciste. Il avait été arrêté, il avait reconnu les faits, et ce sera le début d'une longue enquête qui a finalement abouti à la mise en examen de près de 70 membres ou sympathisants de la formation, dont la quasi-majorité des 17 députés. Le procès est actuellement en cours et la prochaine audience doit d'ailleurs se tenir mardi prochain.
Est-ce qu'on peut dire aussi c'est que les médias sont de moins en moins tendres avec ce parti?
Effectivement, on peut dire qu'ils ont contribué à dégrader l'image de l'Aube Dorée. Durant la campagne, par exemple, le dirigeant du parti n'a pas été invité à prendre part au débat avec les autres concurrents à la télévision. Et malgré ça, l'Aube Dorée continue quand même de capitaliser sur le discours anti-système. La gauche radicale, et en particulier Syriza, avait réussi à reprendre des électeurs à l'Aube Dorée sur le thème de l'anti-austérité. Mais il y a toujours ce danger que les négociations avec les Européens capotent, que la Grèce soit poussée à la faillite. Et là, le risque est grand que les électeurs se tournent à nouveau vers l'extrême droite.
Oui, et puis l'autre thème cher à l'Aube Dorée, c'est l'immigration. D'ailleurs, leur principal slogan, c'est « La Grèce appartient aux Grecs ». On sait que la Grèce connaît un afflux massif de réfugiés. Est-ce que cela a eu une certaine influence, malgré tout, sur le scrutin de dimanche dernier?
Alors, c'est un thème qui a été beaucoup moins présent que la question économique durant toute la campagne de ces législatives, mais ça reste un thème très important en Grèce. On constate que l'Aube Dorée a d'ailleurs réalisé ses meilleurs scores dans les îles qui ont été touchées de plein fouet par le problème des arrivées massives de migrants. Le parti a enregistré ses plus fortes progressions dans les îles de la mer Égée orientale, en particulier à Lesbos, où sont entrés massivement des gens, jusqu'à 20 000 exilés qui étaient là au début du mois. Et là, près de 8% des électeurs ont donné leur voix à l'Aube Dorée. L'Aube Dorée qui progresse également de 2,5% par exemple autour de l'île de Kos, qui est une autre plaque tournante de cet exode massif. Pour le futur, beaucoup dépendra de la gestion de ce problème par les autorités grecques, de la manière dont elles pourront améliorer la prise en charge des arrivants. Tout faux pas se traduira bien sûr par un regain d'intérêt à nouveau pour l'Aube Dorée.
À suivre donc. Merci beaucoup Anastasia Bekio et on remercie évidemment Taïrou qui nous appelait de Sévaré au Mali. 10h17 à Paris. Vos questions à la rédaction 33 9 693 693 70. Stanislas Zaïchimier nous rejoint. Bonjour Stanislas.
Bonjour Johan.
Bienvenue dans ce studio, journaliste au service économie d'RFI. Ghislain est à Brazzaville, il a une question à nous poser. Bonjour Ghislain.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Des questions concernant les Jeux panafricains qui se sont déroulés à Brazzaville, la capitale du Congo.
Effectivement, en date du 4 au 19 septembre dernier, Brazzaville a abrité les 11e des Africains, qui s'est bien déroulé toutefois, mais j'avais deux questions à poser. La première, quel a été le coût global de ces Jeux africains, des 11e Jeux africains? Et la seconde, quelles sont les retombées économiques pour le pays organisateur qui est notre pays, le Congo-Brazzaville?
Oui, alors Ghislain, d'une certaine façon, vous faites le porte-parole de plusieurs auditeurs qui nous ont appelés pour nous poser exactement les mêmes questions. Les retombées économiques de ces 11e Jeux africains. Alors Stanislas Zaïchimier, déjà sait-on à peu près le coût de ces 11e Jeux africains?
Mais en chiffre global, on en a, selon certaines sources, la construction du complexe sportif de Kintele dans la banlieue nord de Brazzaville et de toutes les autres infrastructures liées aux Jeux africains a coûté 380 milliards de francs CFA. Et il y a eu la construction de la route de la Corniche avec un viaduc de 7 kilomètres. Le gouvernement a débloqué 106 milliards de francs CFA pour cette route, ce qui donne un total de 486 milliards de francs CFA. C'est l'équivalent de plus de 740 millions d'euros.
D'accord.
Il y a donc eu pour l'occasion la construction du complexe sportif de Kintele qui peut accueillir au moins 60 000 spectateurs. 4 gymnases ont été construits ou rénovés. À noter aussi la construction d'un viaduc, donc je l'ai dit, de 7 kilomètres, et le vieux stade Massamba Déba a été rénové.
Oui, c'est d'ailleurs dans ce stade Massamba Déba que se sont déroulés les tout premiers Jeux africains, c'était il y a 50 ans, en 1965.
Et exactement, donc Brazzaville avait accueilli les premiers Jeux de la francophonie, donc... il faut dire que les informations concernant le coût de ces Jeux africains sont difficiles à obtenir dans le détail. Le ministère des Finances traîne des pieds pour donner ces informations.
En tout cas, ce qui est sûr, Stanislas Zaïchimier, c'est que cette 11e édition des Jeux africains a été un succès en termes de fréquentation.
Oui, lors des deux semaines de compétition, il y a eu bien sûr quelques secteurs de l'économie qui en ont profité. Donc, il y a eu environ 7000 athlètes qui sont venus de 54 pays africains, C'est un record. Mmh. Il y a des prestataires qui ont donc gagné ce marché ponctuel. C'est par exemple une entreprise sud-africaine spécialisée dans la restauration lors des grands rassemblements qui a été chargée de nourrir les compétiteurs. Et c'est la même entreprise d'ailleurs qui avait nourri les compétiteurs lors des 10e Jeux africains qui s'étaient déroulés à Maputo en 2011.
Au Mozambique.
Et voilà, exactement. Mmh. Et la compagnie aérienne publique Equatorial Congo Airlines a transporté plus de 70% des athlètes, donc c'est une bonne somme qui est tombée
évidemment dans les caisses de cette compagnie aérienne.
Exactement. Et puis il y a donc pour ce que a rapporté au moment des jeux économiquement, donc au-delà des athlètes, il y avait les membres des délégations qui accompagnaient, donc il fallait les loger, les nourrir, voilà, pour ce qui est de l'apport financier, donc cette affluence a été bénéfique voilà à ce moment-là.
Et alors Ghislain nous demandait, bon, maintenant, quelles peuvent être les retombées économiques pour le pays? A-t-on une idée?
Pour le futur, c'est un peu un mystère. Ça fait partie des mystères qui entourent ces Jeux de Brazzaville. On sait seulement que le village des Jeux où les 7000 sportifs ont dormi va devenir un campus universitaire. Mmh. Les 4 gymnases pourront évidemment continuer à accueillir des compétitions locales ou internationales, mais de moindre portée. Mais le complexe sportif de Kintele pourra difficilement à nouveau accueillir autant de monde que lors des Jeux africains.
On rappelle qu'il a une capacité d'accueil de 60 000 personnes.
Exactement. Ce qui est sûr, le coût investi sera difficile à amortir à court terme, à moins d'organiser souvent ce genre de compétition, ce qui n'est pas fréquent, en fait. Il n'y aura presque pas d'emploi, parce que si j'ai bien compris, Ghislain aimerait savoir s'il y aura des emplois pérennes créés.
Oui.
Il n'y en aura presque pas. Les retombées positives dont on peut rappeler, c'est juste ce que les restaurateurs, les couturiers ont pu engranger au moment des Jeux. Et au niveau de l'économie informelle aussi, il faut savoir ça se passe un peu partout.
Évidemment.
Il y a plein de commerçants,
les vendeurs ambulants
qui se sont installés autour des Jeux. Même si c'était contrôlé, ils ont pu quand même gagner quelques sous.
Merci beaucoup Stanislas Zéchimier. Ghislain, on vous souhaite une bonne journée à Brazzaville. Merci de nous avoir appelés. Au revoir, à bientôt.
Merci, Juan, merci.
33 9 693 693 70. N'oubliez pas la libre antenne dans 20 minutes maintenant. Vous commentez l'actualité de votre choix par téléphone. On a envie de vous entendre, mais sinon, si vous souhaitez rester plus discret, sur la page Facebook de l'émission, la page officielle RFI Appel sur l'actualité. Bonjour Georges.
Bonjour Juan Gomez, bonjour à tous les auditeurs de Appel sur l'actualité.
Vous êtes au Cameroun et vous avez, vous, des questions concernant les primaires des Républicains aux États-Unis.
Oui, effectivement, je suis à Douala. Dans le cadre de la primaire aux États-Unis, dans le Parti républicain, ils ont abordé lors d'un débat télévisé beaucoup de questions, notamment des questions relatives à la politique internationale et donc la question de l'Iran. Mmh. Alors moi, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a un risque au cas où un républicain devenait président aux États-Unis l'année prochaine, que l'accord conclu entre l'Iran et les grandes puissances soit remis en question?
Oui, on sait que cet accord qui a été conclu au mois de juillet est contesté par les Républicains. Bonjour Françoise Coste. Françoise Coste.
Bonjour, vous m'entendez?
On vous entend parfaitement bien. Soyez bienvenue sur notre antenne.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste des États-Unis, vous êtes maître de conférence à l'université Toulouse Jean Jaurès et vous venez de publier aux éditions Perrin une biographie sur Ronald Reagan, son titre Reagan, voilà, tout simple. La question de Georges est intéressante. Il y a eu effectivement la semaine dernière ce débat télévisé sur le plateau de CNN. Tous les candidats républicains étaient réunis pour débattre de tous les sujets, y compris de l'actualité internationale. D'abord, a-t-il été question de l'Iran et a-t-il été question de cet accord conclu il y a quelques mois?
Oui. C'est vraiment, comme vous l'avez dit, une question centrale du débat actuel aux États-Unis. Et au débat des primaires sur CNN la semaine dernière, il y a le sénateur Ted Cruz du Texas qui en a parlé explicitement et qui a promis que s'il était élu président l'année prochaine, il démantèlerait l'accord, annulerait l'accord.
D'accord. On sait que les Républicains, dès le départ, le contestent. Ils ont essayé, d'ailleurs, d'enterrer cet accord au Congrès, mais ça n'a pas marché.
Ça a été d'ailleurs même un peu une humiliation pour eux. Ça a commencé au printemps dernier, quand on a vu que l'accord était vraiment dans les tuyaux et sur le point d'aboutir. Un sénateur républicain, lui aussi de l'Arkansas, qui s'appelle Tom Cotton, a fait une lettre qu'il a fait signer par pratiquement tous les sénateurs républicains, une lettre à l'Iran pour dire « On vous prévient, si vous signez l'accord avec les États-Unis, il n'engage que l'administration Obama, et quand ou si nous revenons au pouvoir en 2016, nous ne nous sentirons pas liés par cet accord.
Ouais. »
Et Ted Cruz a fait un peu la même promesse, sauf que, pour l'instant, les républicains pensaient avoir monté une grande campagne contre l'accord au Sénat pour empêcher la ratification par le Congrès. Et en fait, ça se passe beaucoup plus facilement que prévu. Pour Obama, le Congrès a entériné sans aucun problème l'accord.
Effectivement. Alors, tous les candidats républicains promettent donc de revenir sur cet accord, à l'exception, il me semble, de Donald Trump, qui, une fois de plus, se démarque des autres.
Oui, mais parce que lui, est-il vraiment un candidat républicain? Disons que les autres suivent la ligne officielle du parti. Donald Trump, sur plein de sujets, en fait, est complètement indépendant de la ligne du parti.
Ouais.
Donc, sur les questions de politique étrangère, il est de toute façon très... Il ne maîtrise pas vraiment le sujet non plus.
Vous dites qu'il n'est pas à la hauteur, c'est ça?
Il ne maîtrise pas encore les sujets.
D'accord. On a compris, alors. On a compris. Ça a le mérite d'être clair. Françoise Coste, merci d'avoir été avec nous, spécialiste des États-Unis. Il nous reste 4 minutes. On va prendre un dernier auditeur, une dernière question. Florent, bonjour.
Oui, bonjour, Juan. Bonjour, Alexis. Mondou.
Alors, vous êtes à Mondou. On va tendre l'oreille, Mondou, au Tchad. Vous avez, vous, des questions concernant la déforestation? On en a parlé sur notre antenne à l'occasion du 14e congrès forestier mondial qui s'est tenu à Durban, en Afrique du Sud. On vous écoute, Florent.
Oui, à l'occasion du congrès forestier mondial qui s'est tenu en Durban, en Afrique du Sud, la FAO a publié dans son rapport que la planète a perdu 129 millions d'hectares de forêt ces 25 dernières années.
Oui.
Alors, sur ça, j'aimerais savoir comment lutter efficacement contre la déforestation, contre la lutte à l'abaissement des arbres en Afrique et surtout en Afrique de l'Ouest.
Alors, l'Afrique de l'Ouest, vous avez raison effectivement d'insister sur l'Afrique de l'Ouest, puisque sur les 10 pays où la déforestation est la plus rapide au monde, 5 sont sur le continent africain, et sur les 5, 4 sont effectivement en Afrique de l'Ouest. Bonjour Cécile Lebas.
Bonjour.
Vous êtes chargée de campagne et forêt pour l'ONG Greenpeace. Concrètement, que peut-on faire, que faut-il faire pour lutter contre la déforestation, surtout qu'on sait que les forêts contribuent à une certaine échelle, à atténuer le réchauffement du climat?
Oui, alors c'est une excellente question, effectivement, de Florent, puisque comme vous venez de le dire, la déforestation s'accélère en Afrique de l'Ouest. Et parmi les 5 pays africains que vous avez cités où l'accélération de la déforestation a été la plus importante, il y en a 4 en Afrique de l'Ouest, et ce sont la Sierra Leone, le Libéria, la Guinée et la Guinée-Bissau. Ce qu'on peut dire un petit mot sur les causes, c'est qu'une des causes principales de la déforestation en Afrique, ce sont les plantations industrielles tropicales, et notamment de palmiers à huile, pour produire de l'huile de palme, et puis d'EVA pour produire du caoutchouc naturel. Donc à votre question, Florent, qui est comment peut-on lutter, que peut-on faire, ce qu'on peut dire, c'est qu'il faut réussir en fait à convaincre les États et les entreprises d'adopter des pratiques et des politiques qui soient respectueuses de l'environnement et qui protègent les forêts. C'est ce qu'on appelle des engagements zéro déforestation. Et on peut donc faire pression sur les entreprises pour que, quelle que soit leur place dans la chaîne d'approvisionnement, elles adoptent et elles mettent en œuvre des politiques zéro déforestation. Et un petit mot peut-être sur les États, puisque justement en Afrique de l'Ouest, il y a un cas quand même qui est à noter, c'est le cas du Libéria, qui l'année dernière s'est doté de l'objectif d'interdire le développement de projets agro-industriels sur les forêts. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'huile de palme, le cacao, la pâte à papier ne pourront plus être produites sur les forêts.
Ah d'accord.
Donc c'est un exemple, c'est une illustration qui peut servir d'exemple, je pense, pour d'autres, pour d'autres pays, et qui est très positive.
Ouais, Florent, alors Florent, une dernière question, il nous reste une minute, Florent.
Oui, là.
Ah, alors on est en direct, ce sont des choses qui arrivent. Florent, puisqu'on a les questions heureusement avant, on peut peut-être couper la ligne téléphone de Florent, voilà, ça évitera le bip. Il nous demandait si la reforestation était une solution viable.
Alors la reforestation, c'est une solution. Pour nous, c'est pas la solution prioritaire pour Greenpeace. La priorité vraiment, c'est de stopper la déforestation, d'empêcher en fait la déforestation de forêts naturelles existantes. Pourquoi? Pour une raison très simple, c'est que la reforestation ne pourra jamais permettre de recréer toute la biodiversité des forêts tropicales. C'est-à-dire que les forêts, ce ne sont pas que des stocks de carbone, il y a aussi des milliers d'espèces de mammifères, d'espèces végétales, etc. Mmh. Et la reforestation, en fait, ne pourra pas permettre de recréer ce type d'écosystème. Et comme vous l'avez dit justement tout à l'heure, lutter contre la déforestation, en plus, c'est l'un des moyens les plus efficaces pour lutter contre le changement climatique.
Effectivement, et les forêts auront un rôle clé dans l'accord de la COP21, la conférence de Paris sur le climat qui se tiendra au début du mois de décembre à Paris. Et RFI, évidemment, RFI sera présent durant cette conférence. Restez avec nous dans un instant, le journal, et on revient tout de suite après.